Vous écoutez France Inter, il est 18h17.
France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir une femme qui a l'habitude de repousser les limites du possible. Elle l'a fait tout au long de sa carrière de sportive, elle l'ancienne championne du monde de natation. Elle l'a fait ensuite en s'engageant en politique, d'abord à gauche au Conseil régional d'Île-de-France, puis au sein du gouvernement en répondant à l'appel du Premier ministre Édouard Philippe qui avait été impressionné par son cri de colère suite à la mort par noyade de 3 frères et sœurs, c'était l'été dernier. Une situation insupportable pour celle qui depuis des années se mobilise pour apprendre aux plus petits à nager. Depuis septembre dernier, Roxana Maracineanu est ministre des Sports. On aura donc l'occasion de parler avec elle de ce qui fait la une de l'actualité sportive du moment, à savoir la Coupe du Monde de football avec des Françaises déjà qualifiées pour les 8e de finale. On parlera aussi du parcours si particulier de cette ministre née en Roumanie, dont les parents ont décidé un jour de quitter leur pays. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Ce soir, on n'en sort pas quand des mamies se mettent au foot et même à la compétition. À 19h, le journal de Sébastien Paour tout à l'heure. À 19h20, Roxana Maracineanu restera avec nous pour un téléphone sonne consacré à l'apprentissage et à la pratique de la natation. Alors que le nombre de morts par noyade est en hausse, plusieurs centaines l'été dernier, et les enfants sont particulièrement touchés. Alors surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Roxana Maracineanu.
Bonsoir.
Un grand merci d'être avec nous jusqu'à 20h, c'est-à-dire de nous consacrer 2 heures, alors que votre actualité est particulièrement chargée dans votre secteur. On va commencer peut-être par ce qui fait quand même la une en ce moment, c'est-à-dire la Coupe du Monde de football. Elle a démarré il y a une semaine tout juste. J'imagine que vous avez assisté aux 2 matchs des Françaises.
Oui, bien sûr, et j'ai l'intention de les suivre jusqu'au bout, jusqu'à la finale, on espère. Et voilà, j'ai eu l'occasion de les voir une semaine avant leur entrée en compétition, et puis un peu avant sur les matchs amicaux. Donc l'idée, c'est aussi d'apprendre à les connaître pour pouvoir les accompagner du mieux possible, même si c'est pas de moi dont elles ont besoin en première ligne, mais je suis là.
Alors vous les avez vu jouer contre la Corée vendredi dernier, contre la Norvège à Nice mercredi. Est-ce que vous avez perçu quelque chose de particulier dans les stades? Parce que c'est vrai qu'une Coupe du Monde féminine, c'est quelque chose d'exceptionnel.
J'ai perçu quelque chose de particulier déjà au sein de cette équipe de France. Les filles sont sereines, détendues, prêtes à l'exercice en fait qui les attend. Et je pensais après le match, justement le dernier match où c'était quand même un peu tendu, on n'était pas sûr qu'elles allaient arriver à marquer un but. Finalement, elles en ont marqué 3, dont un contre leur camp. Mais voilà, elles étaient sereines. Et puis c'est pas évident, parce que je crois que ce qu'elles ont découvert au sein de ces stades, avec tout cet engouement populaire, avec des stades de 40 000 places remplies, avec une audience à laquelle je pense que personne s'attendait, Voilà, il y a de quoi en fait les faire sortir un peu de leur objectif de performance, et pourtant elles arrivent bien à rester entre elles, concentrées, sereines.
En quoi cette visibilité nouvelle est importante ?
Elle est importante pour nous parce que on voulait saisir cette occasion pour parler du sport au féminin. Déjà à la Fédération Française de Football, où cette Coupe du Monde a mobilisé des anciennes joueuses. Le président Noël Le Graët les a mises aux manettes. Donc c'est quelque chose d'important, d'intéressant, dans une fédé réputée masculine, dans un sport réputé masculin. Que les femmes s'emparent d'un tel sujet, c'est intéressant. Pour moi, ça m'a paru intéressant parce que c'est un sujet auquel je suis très attachée personnellement. C'est ce que je portais en tant que responsable associative et ce à quoi j'ai envie de donner plus de valeur aujourd'hui et d'importance en tant que ministre. Les femmes et le sport, la fonction de dirigeante associative, l'engagement de manière générale, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, dans le mouvement associatif, dans le sport. Et c'est une belle occasion, c'est une belle vitrine, et ça emmène aussi d'autres filles, d'autres sports collectifs. Donc parler du sport au féminin ensemble,
pour ça que ça favorise la pratique porteur. Sportive chez les femmes, tout simplement.
Oui, à tous les âges, pas seulement chez les jeunes. Et puis une mixité. Donc voilà, mon petit garçon de 7 ans qui aimerait pouvoir faire de la danse et qui ne peut pas aujourd'hui parce qu'il y a que des filles qui font de la danse. Et pareil, une fille qui doit pouvoir trouver une place et une équipe pour jouer au football, comme elle peut le faire en volley, en handball, en basket. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas jouer au foot quand on est une fille et qu'on a envie d'avoir cette carrière.
Alors, vous le disiez, elles ont fait. D'abord, elles ont joué à guichet fermé, puis elles ont fait un carton en termes d'audience à la télé. 10 millions de téléspectateurs à chaque fois, si bien que TF1 a décidé de relever ses tarifs publicitaires. Ça veut dire quoi? Qu'il faut arrêter d'imaginer que les messieurs font mieux en termes d'audience que les femmes, c'est ça?
Ce que ça montre, c'est que comme on a commencé à préparer cette Coupe du Monde il y a 4 ans maintenant, et qu'on a mis tout en place, quel stade, quel diffuseur, quel droit télé, quel publicitaire allait s'engager là-dedans, et est-ce qu'on allait la retransmettre sur une télévision payante, pas payante. Donc voilà, tout ça c'était en question, et c'est vrai qu'il y a 4 ans, il y a 4 ans et maintenant, tout ça, ça a évolué déjà, parce que la société évolue aussi, les mentalités évoluent, et spécifiquement dans le sport, c'est super qu'on ait osé, parce qu'en fait, voilà, de toute façon c'est notre charge à nous au sport, c'est toujours d'essayer de convaincre. Et je crois qu'on est arrivé à le faire, elles sont arrivées à le faire, où finalement on s'attendait pas, voilà, les diffuseurs, je pense, s'attendaient pas à cette audience. Et aujourd'hui, voilà, le fait de remonter les droits publicitaires, ça montre que c'était quelque chose d'inattendu, mais ils ont eu l'audace quand même de le faire, de le reprendre, et moi je suis contente que ça montre quelque chose dont moi personnellement je suis intimement convaincue, qu'il y a de la place pour le sport féminin et que l'accès au sport il doit être fait moitié-moitié, puisqu'on est la moitié de femmes, la moitié d'hommes dans cette société. Donc il n'y a pas de raison que dans la pratique encadrée il n'y ait que 30% des femmes, que dans les quartiers il n'y ait que encore moins 20% des femmes qui puissent avoir accès au sport pour 80% d'hommes. C'est pas possible, donc il faut qu'on puisse changer les choses.
Et aller vers plus d'égalité. Alors cette égalité, Roxana Maracineanu, elle passe aussi par les salaires, elle passe par les primes. J'imagine que c'est un sujet auquel vous êtes sensible, on va en parler. Guillaume Batin du service des sports est avec nous. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Vous suivez cette compétition, vous ne suivez pas que les Françaises, on le précise. Et cette question des primes, elle est posée dans bien des pays, pas qu'en France.
Oui, partout. La FIFA va distribuer à la fin 30 millions de dollars de primes aux équipes en fonction de leur classement final dans la compétition. 667 000 dollars pour les sélections éliminées dès le premier tour, jusqu'à 3,5 millions pour les vainqueurs. La somme est directement ensuite virée aux fédérations et ensuite à elles de redistribuer aux joueuses comme elles l'entendent. La FFF, donc pour la France, va appliquer le même coefficient qu'aux filles qu'aux garçons, 30%. Mais comme le gâteau est 10 fois plus gros chez les hommes, ils ont touché 400 000 euros après la finale remportée face à la Croatie en Russie l'été dernier. Si les femmes gagnent le 7 juillet à Lyon, on leur souhaite, ce sera 10 fois moins, 40 000 euros par joueuse. Mais pas question de réclamer plus en ce moment, de négocier avec le président de la fédération, Noël Le Graët, comme explique la milieu de terrain que j'aperçois en photo sur votre gobelet, et une voix qui compte, Gaëtan Tinet.
S'il fallait payer pour faire la Coupe du Monde, je paierais, donc je suis pas bien placée pour parler de ça. L'égalité homme-femme, moi j'ai pas de soucis, et j'ai pas de soucis pour l'entendre, mais si on rapporte autant que les hommes, j'ai pas de soucis qu'on gagne autant. Moi je parle mathématiques en fait. Si on fait les comptes, je suis pas sûre que l'équipe de France féminine rapporte autant que les hommes. Donc est-ce que c'est comparable? Non. Les primes, elles sont ce qu'elles sont. Franchement, négocier avec la fédération, quand on voit dans quelles conditions on est au quotidien, c'est-à-dire top, top, top. On n'est pas là pour négocier, parce qu'on fait partie de la même famille. Donc je sais juste une chose, c'est que ce qu'ils nous donnent, c'est la meilleure des choses.
Voilà. Voilà. Entre les joueurs et les joueuses de l'équipe de France, Guillaume, les primes vont donc de 1 à 10. On est très loin de la parité et c'est pas le cas partout ailleurs.
Alors, quelques exemples. La Fédération Sud-Africaine, par exemple, qui applique exactement les mêmes barèmes de primes entre équipes masculines et féminines. En Norvège, souvent très en avance sur ces questions-là, les joueurs de l'équipe masculine ont baissé leurs primes de leur plein gré pour arriver à l'équilibre avec les femmes. En Australie, là encore, c'est le syndicat des joueurs qui a fait pression sur la Fédération pour atteindre la parité. Voilà quelques exemples qui se passent bien. Le plus tendu, c'est avec la sélection américaine. Le conflit est ouvert depuis des mois avec l'USSF, la Fédération américaine de football. Les joueuses ont pris des avocats pour un procès qui s'ouvrira en 2020. Les Américaines, qui remportent des titres mondiaux quasiment tous les ans, 3 Coupes du Monde, 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques, contrairement à leurs compatriotes masculins qui ont difficilement atteint en 1930 un huitième de finale. Et c'est la star des réseaux sociaux, 13 millions de followers, Alex Morgan, qui ne rate jamais une occasion d'en parler devant les journalistes. La dernière fois, c'était mardi, après le 13-0 historique, record de buts dans une Coupe du Monde face à la Thaïlande. Alex Morgan arrive en conférence de presse, elle a marqué 5 buts, fait 3 passes décisives, et avant de parler d'elle et du résultat, elle aborde le sujet en conférence de presse.
Not every federation gives the same financial effort to their women's side.
Les 24 fédérations ne donnent pas les mêmes moyens aux équipes. ni les mêmes primes de match. C'est dommage.
You know, we cap it at 32 teams,
mais j'aimerais qu'on soit 32 équipes et que la FIFA mette la pression sur les fédérations pour augmenter les moyens du football féminin.
To put more efforts into their women's side.
Et si elle remporte une quatrième Coupe du Monde le 7 juillet, Alex Morgan et les autres joueuses de l'équipe américaine ont déjà prévenu, elles n'iront pas serrer la main de Donald Trump et manger des petits fours à la Maison Blanche. Le football a besoin de femmes charismatiques. Elle en a trouvé une, il en a trouvé une, avec notamment Alex Morgan, l'américaine.
Merci beaucoup Guillaume Batin. Puis j'ajoute qu'en France, Vikash Dorasso a lancé une pétition pour demander à la fédération de distribuer les primes de manière équitable. Roxana Maracineanu, on sait que vous êtes sensible, vous, aux questions de discrimination. On vous a entendu sur le racisme dans les stades, sur l'homophobie dans les stades. Là, c'est quoi? Ces différences de primes, on peut parler de sexisme, ça vous interpelle?
Il faut surtout parler d'équité. Et effectivement, Gaëtan Tinet parle pas mathématiques, mais enfin parle mathématiques. Nous, c'est à nous de parler politique. Et parler politique, c'est aussi le rôle de la Fédération française de football, mais aussi de la FIFA, parce que la joueuse américaine dit que c'est à la FIFA de mettre la pression sur les fédérations nationales, mais c'est aussi à elle peut-être d'avoir ce geste politique de finalement redistribuer peut-être plus que le gâteau que ça va rapporter, justement en ayant aussi cette démarche un peu de redistribution équitable.
Mais c'est pas votre rôle lancer, à vous de politique de faire pression sur la
fédération.
Nous, par
exemple, au moment de la distribution des primes d'État au moment des Jeux Olympiques, puisque c'est la compétition qui nous concerne spécifiquement, c'est là qu'on donne des primes aux sportifs. Et bien, on le fait évidemment dans un sens d'équité, et on le fait aussi maintenant entre ce qui se faisait pas avant, entre les sports paralympiques et les sports olympiques, pour que voilà, récompenser en fait l'effort qui a été fait, et parce qu'on n'arrive pas à un résultat sans s'entraîner, et tous les gens s'entraînent, tous les sportifs s'entraînent de la même manière, qu'on soit un homme, une femme, valide ou personne handicapée. Donc voilà, nous on respecte ce principe d'équité. En prenant la parole de la manière dont je le fais, évidemment, j'espère pouvoir inciter les fédérations à le faire également. Il y a des fédérations qui se sont déjà positionnées de cette manière-là. La fédération de tennis à Roland-Garros, c'était les mêmes primes, hein, pour les garçons et les filles.
Aussi.
Voilà, en handball, c'est la même chose. Et évidemment, le problème est le même. C'est pas, voilà, il n'y a pas de différence quand on parle de. Enfin, il y a une différence entre la billetterie femme, la billetterie homme, le stade dans lequel elle joue. On l'a vu sur Roland-Garros. Donc, il y en a un qui est plus grand, l'autre plus petit. Ça fait rentrer plus d'argent et l'autre moins d'argent. Donc, voilà, les problématiques sont les mêmes, mais ils ont pris une décision politique qui va dans le sens de l'équité. Moi, j'encourage fortement.
Vous encouragez ou vous interpellez même très officiellement ce soir la fédération pour qu'il relève un petit peu le niveau? Parce que Guillaume Batin le disait quand même, entre 40 000 et 400 000 euros, bon, elles n'ont pas encore décroché la coupe.
C'est ce que redistribue au départ comme argent la FIFA. Donc la Fédé dit 30% pour les joueuses à la fin, mais si effectivement il y a une manne financière qui est beaucoup plus importante au départ donnée par la FIFA.
Tout le monde parle en pourcentage
pour
en fait.
Ouais, voilà,
moi j'encourage fortement à ce qu'on arrête de parler en pourcentage, mais qu'on prenne un autre pourcentage en ligne de compte, que voilà, dans notre société on est 50% de femmes, 50% d'hommes. 50% de femmes peuvent être des spectatrices dans les stades, devant leur télé, devant ces manifestations-là. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas l'audace de ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, en rediffusant cette compétition en clair et en proposant à des publicitaires de s'engager. Donc à partir du moment où on ne fait pas les mêmes efforts, on ne met pas les mêmes moyens tous au début, bah, prenons voilà, notre... il faut qu'on ose tous, de l'autre côté, à faire un geste politique, voilà, de pas forcément tout de suite d'équité, mais en tout cas de forte progression pour que on puisse compenser ce gap. Et quand vous dites le différentiel des primes, c'est effectivement du 1 pour 10, ça correspond à quelque chose. En France, sur 10 joueurs, il y a une joueuse de football. C'est ça le rapport entre la pratique féminine et la pratique masculine. On peut toujours se rattacher à des chiffres, mais on pourrait se dire aussi, bah voilà, on prend un petit peu d'avance et on va inciter parce que les joueuses vont devenir plus vite professionnelles, parce qu'elles auront plus de primes, parce que la vitrine va briller un peu plus, et ça va inciter aussi la base à se bouger.
Une question à propos de Claire Fontaine, hein, ça, c'est, quand les filles ont laissé la place aux garçons, ça vous a choqué ou pas?
Oui, je pense que le problème est même plus profond que ça. C'est pas que ça, parce que ça, c'est voilà, c'est juste au moment de la Coupe du Monde, une semaine avant. La réalité, c'est que ce centre, il a été fait pour les garçons. On y a accueilli historiquement que des garçons, y compris au moment à un niveau de centre de formation. Les filles y ont été accueillies pendant 2 ans. Après, elles sont reparties à l'INSEP. Voilà, il faut maintenant prendre aussi le problème à la base, parler effectivement d'une professionnalisation plus grande des joueuses, d'un accès à la pratique plus important, et puis d'installations qui vont être faites et financées par la Fédération de football. S'il y a besoin de les aider, on pourra les aider, mais je pense que la Fédération est assez riche aujourd'hui pour pouvoir se le permettre, pour pouvoir voilà, investir de manière équitable pour les filles, pour que ce sport progresse un peu plus et qu'il soit simplement mixte, quoi.
Voilà. Il n'y a pas de raison. Pour l'instant, moins de 200 000 licenciés chez les femmes, 2 millions chez les garçons. Guillaume Batin, prochain match pour les Françaises, c'est contre le Nigeria.
Bah, vous le saviez aussi bientôt, hein, puisque vous les suivrez. Ce sera à Rennes, effectivement, lundi soir.
Avec un enjeu quand même moindre maintenant, mais bon,
il n'y a pas d'enjeu. Il y a la différence de but, mais ça ne va pas compter. Elles sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale. Mais il y a le message qu'on fait passer aux autres équipes qu'on va rencontrer, peut-être les Américaines en quart de finale. Et puis, il y a peut-être l'idée pour Corinne Diacre de faire tourner, de préparer cette équipe, non pas de 11 joueuses, mais de 23 joueuses.
Merci beaucoup Guillaume Batin, Roxana Maracineanu. On va passer nous maintenant à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Jérôme Chélius. À la une cette semaine, le discours de politique générale du Premier ministre et les hommages qui se sont succédés au Sable d'Olonne à la mémoire des trois sauveteurs de la SNSM qui ont péri en tentant d'aller secourir un pêcheur en pleine tempête.
Ils étaient des marins au sang salé.
Je viens avec trois roses, une pour chaque gars qui est mort. Et c'est totalement indispensable d'être là pour rendre hommage à ces gars qui sont morts en véritables héros. J'ai personnellement un bateau, ce sont mes anges gardiens. Quand je suis sur l'eau, je sais que je peux compter sur eux. Et c'est un devoir pour moi d'être là. Eux ont donné leur vie pour nous.
Solidarité des gens de mer que d'autres bénévoles, ceux des organisations humanitaires, ne parviennent plus à exercer en Méditerranée. On déplore plus de 1150 morts depuis un an parmi les migrants. Fabienne Lassalle de SOS Méditerranée.
Tous les jours, malheureusement, c'est ce lot d'informations terribles qui nous arrive, de nouvelles embarcations qui font naufrage, de nouvelles victimes, et on n'est pas là pour les secourir.
SOS Méditerranée n'a plus de bateaux et l'Italie a fermé ses ports.
S'il vous plaît.
Édouard Philippe a donné le top départ de la suite du quinquennat cette semaine à l'Assemblée avec de nouvelles priorités.
Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique.
Tiens, on dirait que les élections européennes sont passées par là.
Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela, le dépassement des anciens clivages.
Le Premier ministre aurait-il tiré les conséquences de ce scrutin ? Pas si sûr pour Jean-Luc Mélenchon, touché mais pas coulé, qui a retrouvé cette semaine l'usage de la parole.
Monsieur le Premier ministre, savez-vous que vous avez, vous aussi, perdu l'élection ? Vous l'avez perdue. Et pourtant, vous voulez faire comme si de rien n'était.
Comme si de rien n'était, Édouard Philippe annonce la prochaine réforme des retraites.
Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal.
Un âge légal auquel personne n'aura intérêt à partir, car il faut écouter la suite de la phrase.
Mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps.
Et dire que la veille devant l'Organisation internationale du travail à Genève, le président Macron avait lancé une mise en garde.
Quand le peuple, quelles qu'en soient les catégories, ne trouve plus sa part de progrès, il ne peut plus adhérer à un régime politique tel qu'il se présente devant lui.
Bon, si c'est lui qui le dit. Sans surprise, le gouvernement a obtenu la confiance des députés. Mais attention à la coalition des opposants. Pour la première fois, en effet, il semble prêt à faire cause commune pour s'opposer à la privatisation des aéroports de Paris. Alors François Ruffin se sent pousser des ailes.
Puisque le premier référendum d'initiative partagée, le premier de notre histoire, nous le permet, allons-y par le bitume des aéroports.
Et qu'importe si cela conduit à une alliance contre nature, de la gauche à la droite, le député LR Aurélien Pradier.
Je me fous de savoir si au bas de ma signature, il y a aussi la signature des socialistes, des communistes et des insoumis. Je pense qu'on n'est pas très loin d'une idée gaulliste qui consiste à dire que lorsqu'il y a à trancher sur un sujet stratégique pour le pays, on s'en remet au peuple français.
Comment il disait encore tout à l'heure le Premier ministre ?
Et c'est aussi cela, le dépassement des anciens clivages.
Allez, on laisse l'ancien monde de côté pour le foot aussi, car désormais ce sont les Françaises qui tiennent le haut de l'affiche. Il fallait bien ça pour en convaincre certains.
Je trouvais ça vraiment pas mal, il n'y a pas trop d'arrêt de jeu, ça joue, quoi, je veux dire. C'est mon premier match que je regardais et je vais les suivre.
Je suis conquis par les Bleus, magnifique, c'est la première fois que je vais voir les filles jouer. Faut y aller, faut suivre cette Coupe du Monde, c'est magnifique. Elles vont la gagner, allez-y, promets, elles vont la gagner, c'est sûr.
Allez, Et encore merci à Jérôme Chélius. Une semaine en France, toujours en compagnie de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Est-ce qu'il y a un sujet auquel vous souhaitez réagir, Roxana Maracineanu,
ce qu'on vient d'entendre ? Oui, beaucoup. Bah, évidemment, le drame...
Des Sables d'Olonne.
Bien sûr, des Sables d'Olonne, avec la SNSM qui est une association à laquelle nous aussi au ministère des Sports on tient beaucoup, ils comptent beaucoup sur nous parce que ils agissent sur une cause qui moi personnellement m'est chère, qui est effectivement les dangers de la mer et puis le danger de l'eau, les noyades. Donc là, ça a été un épisode tragique auquel je m'associe pleinement évidemment à la douleur des familles touchées et puis à l'hommage évidemment rendu par le président de la République. J'ai été personnellement très touchée en tant que ministre que le président leur accorde la Légion d'honneur posthume et puis fasse effectivement rendre cet hommage. Pour moi, en tant que ministre, alors que je viens de lancer un plan aisance aquatique pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent justement être en sécurité dans l'eau, il y a clairement un lien à faire parce qu'aujourd'hui, il y a encore aujourd'hui beaucoup de pêcheurs qui sortent en mer et qui eux-mêmes, ils sont en difficulté par rapport à la mer dans leur capacité, de simplement pouvoir se sauver. Être en sécurité si malheur, ils tombent dans l'eau.
Tout à l'heure, dans le téléphone sonne sur cette question des noyades. Une question sur les migrants en Méditerranée. J'imagine que c'est quelque chose qui vous interpelle, vous, enfant de réfugié vous-même. À l'époque, le fait qu'on n'aille plus au secours des personnes qui sont en Méditerranée.
Bien sûr, le sujet des migrants et de manière générale de l'accueil, des conditions d'accueil de ces personnes en France, mais aussi dans l'Europe tout entière. Moi, je suis entièrement pour ce discours de dire qu'il faut, et pour les actes qu'on pourra mettre en place pour pouvoir accueillir à un niveau européen plus large et qu'on se mette tous d'accord sur la manière d'accueillir ces personnes. Et effectivement, quand elles viennent par la mer, ça demande un accueil particulier. Mais oui, effectivement, ça me touche parce que c'est mon histoire personnelle et que moi, j'ai bénéficié en France d'un accueil vraiment très favorable et à un moment, à une période où on a fait attention à justement à l'accueil des personnes qui viennent de l'étranger. Et évidemment, mon parcours personnel illustre le fait qu'on a intérêt aussi, quand on est un pays, de mettre en avant ces valeurs de tolérance, d'accueil et d'humanité. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi, ça ressort aussi, pour refaire le lien avec le discours qu'a prononcé le Premier ministre, avec ces valeurs qu'il a voulu transmettre en notre nom à tous, au nom de tous les ministres, qui sont ces trois valeurs d'humanité, de proximité et de dépassement.
À propos de politique, Roxana Maracineanu, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez commencé votre carrière politique, si on peut dire carrière entre guillemets, à gauche, au Conseil régional d'Île-de-France. Aujourd'hui, ce gouvernement Philippe, on voit qu'il penche quand même de plus en plus à droite. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent du Parti Les Républicains rejoindre cette équipe. Vous, ça ne vous pose pas de problème vu votre parcours politique, vous qui venez de la gauche ?
Je pense qu'on est dans une composition plurielle au sein de ce gouvernement. Il y a des gens qui viennent, des ministres qui viennent de gauche, il y a des ministres qui sont particulièrement attachés à cet aspect écologique aussi, il y a des ministres qui viennent de droite, et c'est la force, je crois, de ce gouvernement, de pouvoir partager en toute liberté, en toute transparence sur nos idées. Voilà, pour le Conseil des ministres, c'est un Conseil des ministres où chacun s'exprime en liberté, et les décisions qui sont prises à chaque fois le sont en tenant compte des avis des uns et des autres, et voilà, nous on est l'équipe qui aujourd'hui sommes sur le terrain, donc c'est à nous d'avancer. Effectivement, autour du terrain, il y a toujours la droite, la gauche, l'écologie, l'extrême droite qui est là, les insoumis qui sont là, mais je pense que c'est à nous aussi de prendre en considération les signaux qui nous sont lancés par nos concitoyens, que ce soit dans le grand débat, mais aussi par le biais des élections qui viennent de se passer, d'en tenir compte et en fait d'aller de l'avant sans forcément avoir une idéologie fixée, puisqu'on est pluriel au sein de ce gouvernement, mais au contraire de considérer justement tous ces signaux qui sont lancés et de les intégrer, de les insuffler dans nos politiques qu'on a amenées dans le reste du quinquennat.
Alors, il y a une question qui va forcément faire la une pour tous vos collègues, pour vous aussi, c'est la question budgétaire. Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, il y a des restrictions budgétaires et votre ministère, il est touché, Roxana Maracineanu. Le budget est en baisse. Beaucoup s'en étonnent, surtout qu'on est à 5 ans des Jeux Olympiques. C'est quand même un petit souci.
Alors, je dirais que c'est plutôt des budgets qui ont été revus de manière sincère. C'est-à-dire que, pour réexpliquer...
481 millions d'euros l'an dernier, 466 millions cette année, ça baisse.
Alors, ça ne baisse pas, puisqu'en fait, il s'agissait de l'argent qui n'était pas utilisé, sur une ligne pas utilisée. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, comme parfois dans certaines entreprises où il y a plusieurs services, de gonfler les budgets pour dire, finalement, oui, tout ce que vous m'avez donné l'année dernière, je veux exactement la même chose. Là, ce qui nous est demandé, c'est, ce qu'on t'a donné l'année dernière, il faut que tu nous montres à quoi tu l'as utilisé, comment tu l'as utilisé. Si tu n'as pas utilisé des lignes, moi, je te propose soit de venir avec des nouveaux projets et qu'on puisse les abonder, ou soit, parce qu'il y a un impératif ailleurs, que tu puisses faire avoir la capacité de dire, oui, pour moi aussi, alors que je suis ministre des Sports, pour moi, peut-être l'accueil des migrants, c'est quand même finalement la priorité qu'on veut faire, qu'on veut avoir aujourd'hui, par exemple, et on préfère tous abonder dans le sens de priorités qui sont celles d'un gouvernement, et pas chacun dans notre couloir de nage, et qu'on puisse chacun défendre notre truc. Là, le président de la République a annoncé une redistribution de 7 milliards d'euros à destination des Français, c'était dans son discours. Cette somme d'argent-là, il va falloir bien la trouver quelque part, et c'est pas 7 milliards pour c'est à redistribuer. Donc la baisse, elle sera...
Le fait d'avoir été une sportive de haut niveau dans la compétition, c'est quelque chose d'utile en politique ?
Oui, je dirais que c'est utile parce que pour moi, en arrivant il y a 8 mois, ça a été un peu la compétition tous les jours, déjà pour absorber la masse d'informations, pour comprendre les différents sujets, et puis derrière pour avoir aussi une notion pertinente des enjeux qui m'attendent. En ça, ça m'a servi. Et puis, il faut aussi avoir une grande capacité... face à l'effort, une grande résistance face à l'effort qui est demandé, physique tout simplement, et mental, et en ça, ma carrière de sportive m'a servi. Oui.
Alors on va en parler de votre carrière de sportive, et notamment du plus grand de vos titres, championne du monde de natation. On va se remettre ça en mémoire, c'était en 1998 à Perth, en Australie.
Hélène Ricardo qui est lâchée à la ligne d'eau numéro 7, mais devant il y a toujours Nakamura qui est en tête, et Roxana Maracineanu, ligne d'eau numéro 3, qui risque de virer en deuxième position, c'est le minimum. Maracineanu qui revient à la deuxième place, me semble-t-il, et Maracineanu qui remonte maintenant. Il reste très exactement 30 mètres à parcourir, nous allons passer les bouées rouges. Et la Française qui est en train de passer Dagmar Hase, et surtout la Japonaise. On assiste peut-être à un grand moment pour la natation française. Jamais la France n'a été championne du monde de natation. Ce sera peut-être la première place. Titre mondial pour Roxana Maracineanu. Et ce n'est ni plus ni moins que le record de France de 8 dixièmes. Elle n'en revient pas. Exploit énorme auquel on assiste.
Ça fait toujours plaisir de réentendre ça.
Oui, c'est vrai.
Hein? C'est quand même premier titre mondial pour la France. C'est pas rien, Roxana Maracineanu. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce titre, il a été salué par les politiques de l'époque, notamment Jacques Chirac. Et alors, ça donnait des phrases du genre « Le beau visage d'une championne venue d'ailleurs qui donne une magnifique image de la France. Bravo à l'intégration. » Et ça commençait à vous agacer qu'on vous ramène systématiquement à vos origines.
Quand Jean-Marie Le Pen a dit
lui
exactement
aussi
la même chose pour dire voilà un parfait exemple d'intégration, bien sûr que ça m'énervait parce que d'une part, j'avais l'impression qu'on ne reconnaissait pas le travail fait dans mon club à Mulhouse avec mon entraîneur, mon club français, et puis on avait l'impression que j'étais une Roumaine arrivée juste le jour d'avant ma victoire en France et qu'on avait récupéré un peu tout le travail fait en Roumanie, alors que c'était pas du tout vrai. J'ai tout fait, j'ai commencé à 9 ans à nager en France, même si j'ai appris à nager en Roumanie. Mais je trouvais que c'était injuste par rapport aux autres.
Il ne faut pas renvoyer tout le temps les enfants issus de l'immigration à leurs origines, quoi. C'est ça aussi.
Si, je pense que c'est important de le considérer et qu'on puisse avoir des lieux dans notre société, et le sport peut en être un, où on peut s'exprimer et manifester son appartenance à tous les niveaux d'ailleurs, y compris religieuse, y compris culturelle, y compris originelle. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans notre société, on a peu d'espace pour en parler. Donc je pense que c'est très important, au contraire, de le reconnaître et de le valoriser même. Mais au moment où il s'agit d'une victoire sportive, je trouve que c'est bien de rendre à ce qui est dû à ceux qui l'ont fait. Donc je trouvais surtout que c'était injuste par rapport aux gens qui avaient travaillé avec moi, qui étaient là en France, c'était des structures françaises, c'était un parcours sportif mis en place par le ministère des Sports de l'époque. Donc je trouvais que c'était un peu bizarre de de parler de ces sujets-là à ce moment-là. Mais
alors,
on va dire que j'étais pas assez politique à l'époque pour le comprendre.
Vous vous êtes rattrapée depuis un petit mot quand même de ce parcours, Roxana Maracineanu. Donc vous, jusqu'à l'âge de 9 ans, vous avez été en Roumanie. Ensuite, vos parents sont passés par l'Algérie. Vous-même les avez rejoints là-bas parce que c'est vrai que c'était l'époque du rideau de fer. On laissait pas partir toute la famille comme ça aussi facilement. De l'Algérie, vous êtes arrivée en France, à Marseille, en bateau, et puis vous êtes remontée jusqu'en Bretagne, c'est ça, dans un centre de demandeurs d'asile.
Oui, c'est ça. On a demandé notre l'asile politique à Paris, et puis derrière, on a été envoyé avec d'autres familles, d'autres nationalités aussi, dans un centre d'hébergement où les personnes s'étaient proposées pour accueillir l'hiver les personnes immigrées en France, et puis l'été de faire des classes vertes avec des scolaires. Donc c'était assez réjouissant pour nous parce qu'on avait toutes les conditions et puis surtout l'environnement avec des familles bretonnes très accueillantes et qui nous ont beaucoup aidé à apprendre le français, à faire des CV, à aider mes parents à trouver du travail.
Voilà, après il y a eu Blois et puis après il y a eu donc eu Mulhouse, hein, c'est là que
ça et c'est été... là qu'on a réussi à poser nos valises,
voilà,
à se poser
votre, votre vrai point de chute.
Voilà.
C'est là que vous avez rencontré votre entraîneur de toujours, Lionel Horter. Qui s'est occupé de vous. Vous avez finalement eu la nationalité française à l'âge de 16 ans, au bout de... Ça fait quand même un paquet d'années. Et là, nationalité, et hop, premier titre national.
Voilà, on va dire que ça tombait bien. C'était pile l'année où j'étais en mesure d'accrocher un titre français, un titre de championne de France. Donc je suis devenue française 6-7 ans après mon arrivée en France, qui est l'habitude. Et derrière, j'ai fait ma carrière en tant que française...
Vous avez engrangé les titres nationaux, bien d'autres titres aussi. Vous dites, et pardon d'y revenir, concernant la Roumanie, vous dites « je suis entièrement roumaine et entièrement française ». Vous assumez ça ?
Oui, bien sûr, parce que ça fait référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis née en Roumanie, j'y ai passé 9 ans de ma vie. Mes parents ont continué à me parler le roumain en roumain jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Et j'ai beaucoup d'amis qui viennent de là-bas. Je vais en Roumanie chaque été. J'ai fait baptiser mes enfants en Roumanie pour pouvoir faire en sorte qu'ils gardent ce lien, mais qu'en même temps, ils ne soient pas un peu...
Pas perdus, quoi.
Ouais, un peu perdus, parce que c'est vrai que c'est difficile de vivre une double culture. Je l'ai vécu comme ça et je voulais pas qu'ils soient un peu déchirés comme je l'ai été. Donc, j'ai pas réussi à leur parler roumain, moi-même, par exemple, quand ils sont nés, comme on peut faire dans des familles bilingues. Mais j'ai tenu à retourner à chaque fois, une fois qu'ils sont nés, pour les faire baptiser en Roumanie et qu'ils aient un lien, quelque part, avec ce pays. On l'a fait de concert avec mon mari, qui est français, et qui s'est dit aussi que ce serait bien d'entretenir cette double culture de cette manière-là.
Votre mari qui est français, et puis qui est surtout journaliste ici à Radio France, Franck Ballanger, qui avoue quand même que vous avez un véritable emploi du temps de ministre, hein, et que vous n'êtes pas souvent à la maison. C'est pas évident, surtout que les enfants ne sont pas très grands. Hein. Roxana Maracineanu, ça, il nous l'a confié, on peut vous le dire, voilà. Je pense qu'il vous le dit aussi.
Oui, il me le dit assez souvent, mais bon, ça fait qu'invertir les rôles aujourd'hui.
Alors, il est 18h50, Roxana Maracineanu. On a commencé tout à l'heure en parlant de ce qui fait la une de l'actualité sportive, le mondial de foot qui a lieu actuellement en France. Eh bien, figurez-vous que l'engouement des femmes pour le ballon rond touche tous les âges. Ça va vous faire plaisir. C'est ce qu'on va voir grâce aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
La semaine prochaine, il y aura à Saint-Étienne un match totalement inédit entre des mamies françaises et des mamies sud-africaines. Je dis mamies parce que ce sont des grands-mères. Hein. Côté tricolore, l'équipe s'appelle d'ailleurs Mamie Foot. Alors dites-nous, qui sont ces bleus catégorie cheveux blancs?
Vous allez voir, c'est une belle histoire. C'est parti d'un documentaire sur des mamies footballeuses sud-africaines qui s'affrontent régulièrement sur les pelouses. Pendant le tournage, elles ont confié qu'elles avaient deux rêves. Le premier, venir en France supporter leur équipe nationale. Et le deuxième, affronter une équipe de mamies françaises. Sauf qu'en France, il faut le reconnaître, nos mamies à nous, elles jouent plus avec des pelotes qu'avec un ballon rond. Il a donc fallu constituer et puis former toute une équipe de A à Z.
Alors dans le rôle du sélectionneur, les Seniorials, c'est un groupe d'habitat pour retraités autonomes qui a recruté dans ses résidences à travers toute la France. Voilà comment les mamies foot sont nées.
Il y a Arlette, il y a Yvonne, il y a Edith, Francine. Elles seront 18 sur le terrain le 19 juin. La doyenne a 84 ans, elle habite Aix-en-Provence et je peux vous dire qu'elle s'entraîne comme des petites folles pour aplatir les Sud-Africaines.
Alors justement, vous avez rencontré deux d'entre elles, Simone et Martine, qui ont chaussé les crampons à Lucé, près de Chartres. Elles sont à fond, vos mamies. Quand le stade municipal est occupé, eh bien elles empruntent carrément le jardin d'un particulier qu'elles transforment en terrain de foot.
Allez, hey,
pour les cages, deux coussins posés par terre pour les gradins des chaises pliantes et sur le terrain donc nos deux championnes à bloc.
Non mais on est parti pour gagner là, si on est entraîné comme ça c'est pour gagner, essayer d'attraper une petite coupe.
Si on s'entraîne bien mais ça dépend comment ils sont.
Moi je veux que Martine fasse la passe à Simone et Simone marque.
Alors je ferai la passe et je tire au but.
Non c'est moi qui fais ta passe, hein, Simone, si je te passe la balle tu tires tout de suite au but.
Si tu la passes à côté,
ben faut que tu cours.
Allez Martine, des passes rapides, vas-y.
Nadia, la directrice de la résidence, est la première de leurs supporters.
On se décourage pas, on suit le ballon.
Nadia, ça vous éclate?
Moi, ça m'éclate complètement. 65, 77 ans, elles sont complètement folles. Même quand il pleut, elles veulent s'entraîner. Elles suivent un régime, elles font des pompes. Elles ont une pêche du tonnerre.
Ah, chute! Qu'est-ce qui s'est passé, Simone, là?
J'en sais rien, j'ai buté. C'est pas grave.
Vous avez perdu le ballon?
J'ai perdu le ballon.
La directrice me dit que ça vous éclate total.
Ouais, on y a des moments.
Qu'est-ce qui vous éclate?
Bah tout, ça nous donne de l'adrénaline.
Et madame, vous n'y connaissiez rien avant?
Rien du tout. C'est la première fois que je fais du foot. Je connaissais même pas que les femmes faisaient du football. Hein. Martine m'a dit, allez Simone, laisse-moi pas tomber. Alors bon.
Surtout quand on fait des bêtises, on connaît pas.
Ah oui.
Tiens, il a fait faute, mais quoi?
Et qu'est-ce qu'en pensent les résidents hommes?
Ils disent, oh ben ils vont se casser une jambe. On dit, mais vous inquiétez pas, on tient bien debout. Nous on s'amuse, on se marre. Allez, j'y vais.
Allez Martine.
Hop.
Allez, y vont. Dans les gradins.
Vas-y, moi, lâche rien.
Vous êtes qui, en fait?
Moi, je suis le voisin.
Vous avez tous ces yeux qui pétillent.
Ah ouais, moi, je suis un fan de foot, d'ailleurs, voir des gens à cet âge-là qui jouent encore au foot. C'est superbe.
Pourquoi ça vous fait marrer à ce point-là?
Ah, parce que c'est comme si je voyais ma grand-mère qui joue au foot. C'est énorme.
Vous trouvez qu'elle joue comment, là, vous qui aimez le foot?
Elle joue bien, elle joue bien. Et elles écoutent. Elles écoutent.
Là, c'est une passe. Ouais. Qu'il faut faire devant le but. C'est pas raté.
Jamais raté devant le but. D'accord.
Si on vous avait dit que vous feriez partie d'une équipe de foot un jour.
Ah non, moi, j'ai jamais pensé. Jamais pour ça. Puis maintenant, j'adore.
Si le numéro 9 est là, il doit marquer où?
Il peut marquer au but, marquer direct.
Ouais, mais lequel but? Il doit marquer là ou là? Il doit marquer là.
Il doit marquer là.
Bah oui.
D'accord. Et d'ici, on peut buter là.
Faut vous marquer dans le but adverse. Donc si c'est ici.
Les coups francs.
Martine, c'est pratique ce petit schéma là pour vous?
Oui, on va bosser sur ce schéma. Je vais me prendre ma molle. Hein?
Oui, oui.
Qu'est-ce qui est le plus dur?
Mettre les buts. Le reste, ça va.
Ah oui?
Ah oui, je prends le ballon moi. Oui, j'aime bien moi attraper le ballon, mais puis comme quoi.
Et vous êtes à quel poste?
Lyon. Lyon, viens voir. Hey, quel poste que je vais être?
Défenseur.
Et Simone?
Simone, je la pense plus devant le but.
Martine, vous savez faire des têtes?
Oui, j'en ai fait. Ouais, comme ça.
Il n'y a pas de caméra, mais vous êtes drôle.
Ah bon?
La directrice me disait que vous faites des pompes aussi?
Oui, bah oui, on fait des pompes. Pied au mur, moi.
Si vous tombez comme tout à l'heure,
oui.
Et bah vous simulez, vous faites semblant, comme ça, il y a peut-être un pénalty.
Ah, pas bête ça!
Le meilleur joueur du monde, il simule des fois.
Oui.
Alors, vos stars préférées dans le football, c'est qui?
Mbappé. Mbappé. Je l'aime bien, moi.
Et chez les filles?
Ah, c'est la capitaine. Simone, hein? Comment s'appelle la capitaine?
Henri?
Ouais.
Je vous ai interrompu, allez, je vous laisse continuer.
Allez, vas-y, Martine.
Allez, les filles, allez, les filles, allez.
Et voilà les copines de la résidence.
Allez.
Oh, ça vous fait rire, cette histoire de match de foot?
Moi, je trouve ça génial, hein. Je trouve que c'est bien pour les mamies.
Oui, oui. Elles se laissent pas aller, hein, toutes les deux.
Un petit peu d'eau.
Ah.
C'est bon?
Quelle jeunesse.
Ça fait 2 heures, là. Vous n'êtes pas fatigué?
Non, pourquoi? Et vous, vous êtes fatigué?
Bluffante.
C'est des super mamies, ouais. J'ai tout de suite enfilé un pantalon pour venir parce que franchement, c'est génial.
Qu'est-ce qui est génial?
Le côté humain. Franchement, c'est sensationnel.
Quand vous pleurez, madame?
Franchement, je les admire.
C'est beau, c'est beau. C'est des beaux moments de la vie. Félicitations.
Martine, vous faisiez quoi dans la vie?
J'étais aide-soignante.
Elle vient d'où cette patate?
Je me suis mise dans la tête, faut se remuer le derrière.
Et vous, Simone, vous faisiez quoi dans la vie?
J'étais à SEM, moi.
C'est-à-dire?
Dans les écoles maternelles.
Même question qu'à Martine. Ça fait 2 heures, vous n'êtes pas fatiguée non plus?
Non, au contraire.
Comment ça, au contraire?
Ma foi, j'ai la patate. Shooter dans un ballon, ça donne de la vitalité.
C'est vrai.
Au lieu de rester dans un fauteuil, ben, on joue du football.
Rappelez-moi votre année de naissance.
1941, 78 ans dans quelques jours.
On apprend aussi l'anglais.
Ah oui, parce que vous voulez communiquer avec vos adversaires.
Oui, merci beaucoup, c'est thank you very much.
Pas mal.
Oui, mais là, j'ai pas encore tout appris. Hein.
Vous avez un cri de guerre pour le match?
Toutes pour une pour tous.
Approchez-vous, on va faire le cri de guerre.
Pour les mamies foot,
une pour tous et toutes pour une.
Magnifique, Sandrine.
Ça m'éclate.
Ah, c'est beau la passion. Non, c'est vraiment magnifique. Roxana Marazinanu. Ouais, vous pouvez parler mieux. Hein.
Moi, ça me parle beaucoup parce que, en fait, on va parler prochainement d'autonomie des personnes âgées et gagner en autonomie, c'est important aujourd'hui dans notre société quand le système de santé pourra pas remplir, toute la vieillesse de notre population aussi. Et aujourd'hui, faire de l'activité physique à partir d'un certain âge. Là, moi, je parle d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge à l'activité physique, mais il y a aussi cette notion de, au moment où on a fini sa vie professionnelle, éduquer les personnes au tout début du troisième âge à l'activité physique, c'est aussi derrière pouvoir gagner en autonomie quand on va devenir plus vieux. Et c'est mieux finalement que de rester à la maison sur son canapé, comme cette dame elle disait, à regarder la télé, que de faire plus d'activité physique parce que ça rallonge la vie et ça rallonge la vie en autonomie.
Ça vous donne pas envie d'aller voir le match contre l'Afrique du Sud, mercredi prochain à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne.
Stade Salif Keita, j'ai cru voir.
Il y a combien de places? 40 000
Je pense pas. Bon, en tout cas, on vous donnera toutes les infos. Un grand merci Sandrine Houdin, un grand merci Roxana Maracini à nous. En tout cas, surtout vous ne partez pas parce qu'après le journal de 19h, on consacrera le téléphone sonne à ce qui est peut-être votre sujet de prédilection dont vous avez parlé à l'instant, l'apprentissage et la pratique de la natation. On se demandera notamment pourquoi il y a autant d'accidents et de noyades, autant de victimes, plusieurs centaines de morts rien que l'été dernier, parmi lesquels beaucoup d'enfants. Vous nous parlerez du plan que vous avez mis en place, le plan Aisance Aquatique. On sera avec Axel Lamotte, qui est secrétaire général adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs.